voix nue. Cette semaine, en partenariat avec France 5, France Culture propose la rencontre de Jean-Noël Jeannet avec Anne Pinjot. Ce soir, au quotidien, les voyages et les proches.
Anne Pinjot, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Je voudrais que nous parlions des pays étrangers. François Mitterrand, cet homme qui est si profondément enraciné dans la France, dans sa diversité qu'il connaît admirablement, regarde aussi vers l'extérieur.
Ah, qu'est-ce qu'il aime voyager. Qu'est-ce qu'il aime la voyager, vraiment.
En Inde, oui. On le voit voyager au Chili, on le voit voyager aux États-Unis, abondamment.
Oui.
Il fait d'ailleurs des efforts très louables, je ne sais pas s'ils ont beaucoup abouti, pour apprendre l'anglais.
C'était impossible. Il y a un âge où on ne peut plus.
Il prend des cours d'anglais, je vous le dis.
Au début, il prenait des cours de grec, c'est vous dire, c'était un passage, traversé de sa vie, parce que commencer à apprendre le grec à 40 ans.
Grec ancien, naturellement.
Oui, bien sûr, évidemment.
Il parle beaucoup de sa période de prisonnier, peu de l'avant-guerre. À un moment donné, il dit « cette droite que j'ai connue ».
Oui, c'est la droite que je connaissais aussi, parce que c'est cette façon de faire l'histoire sans se mettre à l'époque, je trouve que c'est un procès vite fait.
L'anachronisme, ce monstre chez Clio.
Oui, tout à fait.
Vichy n'en parle pas. D'ailleurs, j'ai observé que dans l'index magnifique que vous avez fait, qui sera une des manières d'entrer au mieux dans ces documents, Anne Pinjot ne figure pas le nom du maréchal Pétain. Il n'est pas dans votre index, jamais.
C'est vrai qu'il n'en parle pas, là.
Et puis, on le voit réagir, naturellement, à tel ou tel événement politique majeur. C'est intéressant. Mmh. Par exemple, l'assassinat de Kennedy. Il écrit comme tant d'hommes et de femmes, 23 novembre 1963, comme tant d'hommes et de femmes à travers le monde, cette nouvelle m'a bouleversé. Ce n'est pas la mort qui m'étonne, qui m'enrage, on la rencontre à tous les carrefours, mais la haine et la sottise, et j'éprouve une sorte d'angoisse à les voir triompher une fois de plus. Quelles étaient ces relations avec les États-Unis d'Amérique? Il disait toujours les États-Unis d'Amérique. Quel regard jetait-il?
Il y a ce fameux premier voyage. C'est la description, c'est vraiment... Ce grand voyage qu'il a fait pour faire des conférences, il était avec sa femme, avec Patrice Pella, avec plein de... Il y a tout un récit des États-Unis. Puis il est retourné faire une tournée de conférences. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai accompagné. Et c'était extraordinaire. C'était passionnant. Mais il faisait ses conférences en français, évidemment, avec traduction. Ce qui donne le temps de réfléchir.
Il a aimé San Francisco.
Ah oui, qui n'aimerait pas San Francisco?
Dans un autre champ, le récit des voyages qu'il vous fait personnellement, Anne Pinjot, que François Mitterrand fait pour vous, est presque toujours impressionnant. Je pense par exemple à celui du Chili, si vous vouliez bien nous en lire quelques extraits. C'est l'époque des débuts de la présidence d'Allende.
Alors, on est le 11 novembre 1971. À 19h30, réception chez Allende avec Fidel Castro au palais, entre parenthèses, vieille Espagne coloniale, de la Moneda. Fidèle, jeune, rieur, en uniforme propre, barbe en avant, sympathique. On s'est ensuite promené avec Estier et Defer dans la ville en fête. Tu as toujours été proche de moi. Alors le 15 novembre 71, on va voir enfin le Parti Socialiste, ennuyeux et solennel. Mais, surprise, le président Allende nous fait savoir qu'il nous attend au palais de la Moneda. Entrevue longue et grave. Il nous expose les périls que court son régime. On se sépare avec amitié.
Un autre voyage dont le récit est vraiment frappant, c'est celui qu'il fait en Inde, en pleine misère, dans le concentré de la misère du monde, qu'il va rencontrer, qu'il va décrire pour vous, avec quelque chose comme un vibrato qui est vraiment sans pareil.
L'Inde, c'était parce que j'avais quand même pris la décision de le quitter pour de bon. Pour me marier normalement avec un ingénieur de grande école, tout ce pour quoi j'étais programmée.
Il fallait centrales ou leaks, au minimum.
Et lui, sa réaction, c'est de partir dans un slum en Inde, auprès d'un père assez extraordinaire d'ailleurs. Et moi, ça m'a bouleversée. Je suis restée. Alors, il y a un journal de bord, donc c'est très long.
Il vous le rapporte au retour.
Oui. Le père Laborde a peut-être 45 ans et maigre, à forte mâchoire, des cheveux gris bien peignés, un rire frais, presque enfantin, des lunettes de fer. Il ne se déplace qu'à bicyclette ou
comme
en train.
Comme vous.
Il sait tout faire et n'est qu'humilité. J'irai demain m'installer avec lui dans son cagibi du Sloum. Je suis déjà embauchée pour aider un jeune médecin libanais qui soigne comme il peut. Il y a des moustiques. Ma chambre est comme tu penses, mur à la chaux, pavé lisse, éclairage grossier, plafond haut. J'écris sur une petite table à côté du lit. Voici bien des détails. Je suis déjà dans le circuit prévu. Pendant 4 jours, je vivrai à l'intérieur d'un Sloum, bidonville de 52 000 habitants, démuni de toute infrastructure, comme aide infirmier. 3 points d'exclamation. Il y a le camp des lépreux, ce n'est pas contagieux ma chérie, et le camp des réfugiés. Je reviendrai passer un jour dans un village rural pour connaître les mœurs, les usages. J'ai voyagé dans un camion préhistorique par des routes cabossées, je suis fourbue. On est revenu par le camp des réfugiés des abords de Calcutta. Ce camp est installé dans l'enceinte de ce qui devait devenir une cité satellite, non encore construite, mais dotée de ses équipements à peine ébauchés, un décor fou. Donc là, il a attrapé la fièvre, il était vomi, toussé toute la nuit. C'était pas un aide infirmier très efficace.
Mais un amoureux, oui, puisqu'il est revenu. Oui. Et qu'il vous a retrouvé. Un peu grâce à ce voyage, dites-vous.
Oui. Quand même. Une cheminée noire nous retombait dessus, la cheminée du crématoire. Moment paisible, la maison pour enfants de lépreux, souvent lépreux même. La lèpre les exclut de toute vie sociale. Un enfant dit à l'autre, « Et toi, ta mère n'a plus de nez. » C'est dommage d'être diminué pour la suite, la tête me brûle. Quelle terrible nuit, malade à crever, je ne me sentais pas bien. Et c'est ce monde tellement étrange de ces gens qui viennent pour soigner. De nouveaux volontaires, anglais et indiens, sont là. Toujours groggy. J'accompagne Léo. Pas d'air, pas d'arbres. Des milliers de gens dans la rue. Ma matinée a été consacrée aux joies d'administration de Calcutta. J'ai accompagné Léo dans son jeep qui voulait me montrer comment Monsieur le Bureau gère la ville, d'abord par le bakchich. Léo s'y refuse, il faut donc savoir attendre. Il désirait obtenir un permis pour un camion destiné au ravitaillement des réfugiés. 3 chambres, 3 familles. Chaque famille compte plusieurs tuberculeux pourris, moribonds. Je suis allée avec Christian chez un mourant de tuberculose. Une pièce toute noire, 4 personnes dedans, dont un bébé, pas de lumière. Christian a fait une perfusion par piqûre intraveineuse à la lueur de ma lampe électrique. Tandis que le patient gémit sourdement. Si je n'avais été là, une petite indienne qui veut être infirmière l'aurait aidé. Trouver la veine dans ces conditions, piquer, mesurer le liquide, ce n'est pas une petite affaire. Selon Christian, la moyenne de vie est de 30 ans. Il soigne des gens dans la rue, amassés le long des rigoles. On sent en lui une profonde pitié. J'ai suivi mes 2 amis à la messe que célèbre la Borde chaque soir. 30 de fidèles, dont 5 hommes, messe en hindi, évangile en anglais, manière d'un curé de campagne mystique. Tout ceci au milieu d'un puzzle de religion. Je me force terriblement, je n'ai pas la vocation du malheur. À tout moment, un réflexe de sauvegarde, je me reporte vers toi. Je ne voulais pas être faible, que c'est bête. Elle, dans la nuit, rêvait. J'ai fait le plus beau des rêves, tout vent magnifié, maison semblable, mais plus haut placée, dominant à pic la rencontre de la Drôme, large, claire, verte, d'un nœud de ruisseau inconnu. Nous faisions notre grand tour des allées fruitières. Quelques coups frappés par le père Laborde à mon panneau m'ont sorti de là. Il partait pour Calcutta. Christian viendrait me chercher. Un long chemin avec d'un côté les cahutes grouillantes et de l'autre, 2 mètres de large, un large égout ouvert comme tout, où flottent viscères, étrons, linges, ramors, enfin tout ce qui sort du ventre des villes. Le long de l'égout avec des pelles ou à la main, chacun cherche un bien, retire et dépose en tas les matières suffisamment solides. J'ai remarqué que les chiens reniflaient, n'insistaient pas. Dès qu'un pêcheur abandonne, un autre le remplace, étrit sa misère comme il peut. En face, les enfants jouent, apprennent le Coran, le quartier, surtout musulmans, rient. Des vieillards considèrent le spectacle de leur jour. Au bout du dédale, beaucoup d'échoppes, de médecins locaux pour lesquels la mort travaille bien. Et l'horreur continue. On rencontre lépreux, tuberculeux, galeux. Ceux-là ont attendu en vain l'espoir et ont cessé d'être propres. De ruelle en ruelle, où poser le pied? Le dispensaire, 4 mètres carrés. Nous sommes 5 dedans. Christian assis avec une petite table devant lui encombrée de médicaments, qu'il tient des sœurs de charité de Calcutta. Pas d'envoi d'Europe ou d'Amérique. Il examinera 63 personnes avant de partir à l'autre dispensaire, celui de Pilkana. Les tuberculeux, les lépreux, on leur donne des pilules pour dîner. Impossible de les envoyer à l'hôpital, ils ne seraient pas reçus. À l'hôpital, il y a 2-3 malades par lit, quelles que soient les maladies, vivants ou morts. Il n'y a aucune chance pour personne. De plus, les mœurs n'arrangent rien. Les médecins indiens n'examinent jamais le corps d'une femme. Beaucoup d'enfants au ventre ballonné, une otite, 2 pilules. 100 personnes attendaient, ce sera pour demain. Léo m'a ensuite ramené à Calcutta. Indira Gandhi est en voyage officiel ici, tout est bloqué. On met 2 heures pour traverser le pont d'Ora. Des centaines de milliers, des millions de vivants dans les rues chaque jour, une impression de folie. Il n'y a de place nulle part qui soit libre. Des files de charrettes tirées à bras par des hommes condamnés à mourir très vite, tant la charge est lourde. Partout des camions en panne. À côté de nous, un vieillard descend à chaque arrêt pour caler les roues d'un camion avec une grosse pierre, pas de frein. J'éprouve une colère, un mépris contre cette grotesque sagesse prétendue des hindous et plus encore contre ce misérable respect dont nos jobards européens les entourent. Voilà ce que ça donne leur sagesse. La lèpre, institution nationale. Figure-toi de plus que nul n'est jamais seul. Jamais. Toute sa vie. La nuit, le matin, le jour. Jamais. Toujours la foule agglutinée. Reste le sommeil. Avec dessus, dessous, auprès, d'autres sommeils.
C'est un voyage méconnu et dont les
oui.
La portée, l'origine, mérite d'être considérée un petit jour.
Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas.
Après avoir reçu ce récit ?
Enfin, j'ai pas eu de regret parce que j'ai eu Mazarine. Sans Mazarine, oui, j'aurais vraiment regretté.
Il a compris que c'était indispensable à un moment donné que vous ayez un enfant ensemble.
Oui. Et au fond, je pensais que c'était le seul acte altruiste qu'il avait fait. Et le comble, c'est que cet acte altruiste a été un des bonheurs de sa vie. Il a eu de la chance.
On a l'impression d'une fable joyeuse.
Oui.
Parlons des grandes décisions qu'il a prises concernant les grands travaux dans les années de sa présidence. Et là, on est moins renseigné parce que comme vous vivez pratiquement avec lui, au Quai Branly, le flot des lettres se tarit, les choses se passent oralement. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces déterminations qu'il a prises, de si grande portée...
Moi, je me souviens, mais c'était au début, que je préparais mes examens d'école du Louvre. Alors, on passait des après-midi à travailler ensemble dans un petit bistrot qui s'appelait Opère Auto. Et donc lui, il écrivait, moi je révisais toujours, mais on échangeait. Et je me disais, mais au fond, quand on étudie toute l'histoire de l'art, au fond, la seule chose que laisse le pouvoir, ce sont les bâtiments. C'est comme ça que ça s'écrit. Et là, j'ai senti que le courant passait. Vraiment. Et il garde quelques idées... Et tout son règne, ça a été quand même pour affirmer, parce qu'au point de vue architecture, c'est impressionnant ce qui a été fait. Et c'est tout à fait remarquable, parce que vraiment, la pyramide de Pei, c'était une trouvaille extraordinaire.
Il a fallu bousculer beaucoup de préjugés, de conservatifs.
Moi, vous et tous les conservateurs, de toute façon, ils sont très à droite.
Hein. Conservatifs de la pensée.
Ça a été une bataille. Le pauvre Pei, ce qu'il a pu subir d'injures, c'est inimaginable, inimaginable. Et ce que j'admire, c'est qu'il ait réussi à aller jusqu'au bout. Parce que dès qu'on veut faire quelque chose, tous les gens se mettent en travers. Donc cette volonté d'aboutir, qui fait qu'on a quand même, il a renouvelé Paris, au point de vue de l'architecture, et en continuant ce qui avait été déjà commencé par d'autres, et en commencé par exemple, ou l'Institut du monde arabe. Mais ça était, cette volonté architecturale, il s'était rendu compte que c'était vrai. C'est ça qui reste. Et comme dans ses lettres, bien avant d'être élu, il raconte « Quand je serai président de la République, quand je serai... » Donc, c'est pas né en un jour, hein. C'est une espèce de longue maturation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment rester? Comment créer? Et l'architecture, c'est le plus noble des arts pour créer, pour rester. Alors, il a regretté, là où il y a maintenant le Quai Branly, d'être une maison des conférences, je ne sais plus quoi, il y avait un projet avec des rectangles. Alors, il était très content parce qu'il avait sa pyramide. Il avait, bon, ça je crois que c'est une grande déception, l'Opéra Bastille, mais enfin bon.
Il a fait d'une erreur, semble-t-il.
Oui, je crois, paraît-il. Donc, il avait quand même son rond. Il avait l'arc à défense tout à fait extraordinaire, son cube un petit peu décentré, là. Et puis, il aurait eu les blocs rectangulaires de ce qui est maintenant le musée du Quai Branly. Donc une espèce d'architecture très simplifiée, mais qui finissait par faire une espèce de style primitif. Et ça, il le souhaitait.
Vous en parliez souvent. Vous pouvez le dire maintenant. Est-ce que vous lui avez donné des conseils?
Non, aucun.
Vous n'avez pesé sur rien.
Non, j'ai pesé en mal, par exemple, quand il voulait absolument qu'il y ait un café dans la cour Napoléon. Il dit, mais c'est comme le Florian à Venise, sur la place Saint-Marc. Moi, j'ai dit, mais au scandale, un café au milieu des œuvres d'art, alors que c'est évidemment qu'il fallait un café. Donc, j'étais pas du tout une bonne conseillère.
Et là,
mais c'était magnifique. C'était magnifique.
L'Arche de la Défense, oui. Toffen Sprekelsen, cet architecte danois surgit de façon improbable de son pays. Il a suivi ça de près aussi.
Ah, mais ça, il était passionné par les travaux. Et il avait raison. Quand on se promène le bord de la Seine, quand même, c'est merveilleux. On voit là donc la grande bibliothèque où il manque les deux étages que ces animaux des monuments historiques ou je ne sais plus quel conflit encore s'est ligué parce que, soi-disant, c'était trop haut. Donc, ils ont fait enlever de Dominique Perrault deux étages des livres ouverts parce que ça réglait leur souci de protester. Mais ces deux étages, il manque. Je ne passe pas devant sans me dire mais c'est pas pas, il manque les deux étages.
Vous avez donc suivi tout ce déploiement d'ambition et de réalisation avec quelque chose comme plus que de la sympathie, j'imagine, de la passion.
Ah oui, juste, c'était magnifique. Mais je suis pour rien, vraiment.
Pourtant, vous étiez beaucoup intéressé dans vos travaux scientifiques, Anne Pinjot, aux relations entre le pouvoir et la sculpture, la création artistique, notamment la sculpture au XIXe siècle.
La sculpture, ça coûte cher. Donc la sculpture, on ne peut pas le faire sans commande. Et les commanditaires, c'est les gens qui ont le pouvoir. Et c'est pour ça que la sculpture est toujours en arrière-garde, parce que les gens qui ont le pouvoir, même s'ils ont beaucoup d'idées et de génie quand ils ont 20 ans, quand ils en ont 60, ils sont plus... Ou alors ils gardent les idées de leur jeunesse. C'était très important pour la sculpture romantique, qui n'est existée qu'en plâtre, parce que ça coûtait trop cher, et qui a été commandée en bronze 20 ans plus tard, quand les jeunes gens qui aimaient bien la sculpture romantique étaient au pouvoir. Vous voyez, il y a une espèce de retard.
Ça, c'est une bonne maturité.
Donc, c'est pour ça que le problème m'intéressait énormément. Et puis c'est aussi une illustration, une image du pouvoir.
On vérifie, on le savait bien sûr, dans toute cette correspondance que vous adresse François Mitterrand, on vérifie son goût de l'amitié. Mmh. Il y a l'amour, n'y revenons pas, mais il y a l'amitié, le cercle de ses fidélités. Vous l'avez prouvé, j'imagine, y compris à votre profit, lorsqu'il a demandé à des proches de contribuer à vous entourer pour vous éviter la solitude.
Oui. Ça, André Rousselet était d'une fidélité admirable. Bon, qu'est-ce que je regrette ? C'est à lui que j'aurais demandé si je pouvais publier ses lettres. Avec lui, on aurait parlé, ça lui aurait rappelé tellement de choses. Quand il va à son mariage, le mariage de Rousselet, toutes les descriptions. Bon. Et voilà, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours attendre.
Il a publié des mémoires qui sont précieux, André Rousselet.
Un merveilleux, à 93 ans, et qui s'appelle « Amis parcours ». C'est tout André Rousselet.
Et puis il y a eu Elisabeth et Robert Badinter, très proches de vous.
Grande fidélité et une grande confiance. Et puis, alors, mais tout au début, et il y avait Laurence qui a épousé Pierre Soudet quand nous, on commençait à se connaître. Et donc, on sortait ensemble, on allait souvent au cinéma ensemble. Et c'est par Pierre Soudet que François a découvert Gordes. Et que nous y sommes allés très souvent chez eux, puisque quand Pierre Soudet a acheté sa maison en Gordes, Gordes était abandonnée, complètement abandonnée, il n'y avait que des ruines. Et avec des amis, il avait décidé qu'ils allaient chacun acheter une maison. Et là, quand il est sorti de chez le notaire, la vieille dame qui lui avait vendu cette maison du XVIIIe siècle me dit « Ah, je vous ai bien eu, je vous ai laissé tous les meubles », c'est-à-dire que tous les meubles en bois du XVIIIe. Elle trouvait ça vraiment pas commode, c'est mangé par les vers, alors que le formica, c'est autre chose. Donc, il aimait l'amitié, Pierre Soudet. Il avait une grande admiration pour François, qui était quand même une génération au-dessus de lui. Une vénération, enfin, une admiration qui est allée au point qu'il a refusé d'entrer dans le cabinet de Georges Pompidou. Peu sont fidèles.
Quel était son métier, Pierre Soudet ?
Il a été le premier de la première génération de l'ENA et le premier anormal. C'est un garçon qui a appris quand il avait 7 ans, à travers la paroi de la chambre, que son père était condamné et qu'il allait mourir. Et toute sa vie, il a été hanté par la mort. Et il a vécu pour sa mère. Hanté par la mort, mais quand il a rencontré Laurence Soudet avait d'un premier mariage une fille. Bon, elle était séparée, j'imagine, une petite fille. Et il a voulu... Et ça, l'Antiquité en ferait... Au fond, il a voulu aussi avoir un enfant. Il a épousé Laurence, mais nous, on se voyait beaucoup à ce moment-là.
Laurence passe beaucoup dans les lettres
Laurence,
que vous adressez à François Mitterrand.
Tout le temps. Et il a aimé cet enfant qui est morte à 18 ans. Pierre Soudet, c'était un garçon très intelligent, très torturé, qui a écrit des romans que j'ai à Gordes, bien sûr.
Qui est mort prématurément.
Très prématurément, avant l'élection de François. Et ça, c'est une injustice.
Comme Georges Daillon, autre Comme Georges Daillon. D'ailleurs, je crois que... vous avez été témoin du fait que François Mitterrand est allé sur la tombe
de Georges. Le jour de son élection est allé sur la tombe de Georges Daillon. c'était une amitié incomparable.
Quand on publiera les lettres de François Mitterrand, je pense que vous aurez donné un bon exemple. Anne Pinjot, les lettres adressées à ses amis, je crois qu'on pourra voir de quelle intensité étaient faites ces relations et aussi la manière, là encore, dont ils parlent de leur mort.
Oui. Je me souviens, il était dans ce fauteuil-là, la pièce à côté, et Georges Daillon devait être opéré. Et il est arrivé le soir, alors je lui dis, alors, comment ça s'est passé? Il m'a dit, il est mort. Et pour lui, c'était un... Il est mort en opération, quoi. Il c'est pas... Mais donc, Pierre Soudé était compliqué, était intéressant, très torturé. Et on est allé chez eux très, 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 très souvent. Et puis, François, il aimait bien, quand qu'il aimait, acheter un terrain pour s'inscrire. Et alors, un beau jour, il a su qu'il y avait un terrain à vendre et il a eu l'idée d'acheter ce terrain. Moi, je lui ai dit, mais quelle idée, on est tellement mieux chez des amis, on n'a aucun souci. Et puis, un beau jour, le maire de Gorade a dit que les autorisations de construire seraient désormais interdites si on n'a pas tant de mètres carrés, ce qui était le cas. Donc,
c'est une règle nationale.
C'est une règle nationale. Donc, c'était au début des années 70. Et comme à ce moment-là, Latché était devenu la demeure familiale, il a eu l'idée de faire construire une petite maison. D'où l'origine de Gorade.
Il s'agissait de contrebalancer, si je comprends bien un peu, le oui. chagrin qu'il nous avait fait en vous promettant Latch et ensuite en ne vous le
oui.
donnant pas, c'est ça?
Oui, oui, c'est tout à fait ça.
Qui était un des moments où vous avez songé à lui mordre les poignets, comme vous dites, pour vous échapper.
Oui. Oui, parce que...
C'est une lettre non envoyée.
Note, oui.
Plus largement, et je me rappelle cette soirée chez une avocate célèbre. Il s'agit de Gisèle Halimi.
Le soir, Claude Estier est venu me chercher pour m'emmener à Fleury-en-Bière, près de Barbizon, où Gisèle Halimi recevait. Très belle propriété close, maison d'Île-de-France typique, une compagnie conforme à ce que j'en attendais, avec ses tics assez prononcés. Gisèle Halimi est une avocate, 40 ans, assez belle, très douée, mi-arabe, mi-juive, point d'exclamation entre guillemets, née à Tunis, femme de Claude Faux, jeune écrivain, 30 ans, collaborateur et secrétaire de Sartre. Gisèle Halimi a été candidate de la Convention aux élections législatives dans le 15e arrondissement.
Il s'agit de la Convention des institutions républicaines, qui est le parti, la formation que dirige François Mitterrand à l'époque.
C'est le prototype de l'intellectuel de gauche, avec tous les dadas de circonstances, mais aussi une forte personnalité. Son public, des intellectuels anti-israéliens, dont le fameux Maxime Robinson, juif lui-même et théoricien du panarabisme, des Algériens, des Marocains, l'ambassadeur de Cuba, l'ambassadeur de Yougoslavie, des artistes allemands, le directeur, entre parenthèses, communiste de l'Institut de physique de Rome, un poète juif du Chili, des pin-up, un souper de méchoui à la sangria et au Beaujolais, et ce qui était le meilleur, Francesca Solville, qui a chanté de façon très remarquable. Il avait beaucoup plu, et les herbes et les arbres avaient la lourde odeur d'été. J'ai abandonné la fête vers 1h du matin et ai couché là, dans une chambre pour petite fille, avec des murs tapissés d'images pieuses, notamment notre vieux Saint Bodime. J'ai entendu la musique et les conversations qui continuaient dehors et me suis endormie.
L'humour.
Oui.
Je suis très frappé.
Ah oui.
Peut-être plus souvent de l'ironie, je ne sais pas. Il évoque, par exemple, Chemin faisant. Ce personnage qui, il s'agit de la flagornerie à l'égard des grands, il en a connu quelque chose.
Ah oui, ça alors.
Il n'a pas toujours détesté d'ailleurs.
Peut-être. Oh oui, ça je le reprochais vivement. Ouais. Ah ça. Enfin, comment serait-on si on était au pouvoir aussi hein.
Vous l'avez reproché.
Ah oui. C'est tout ça.
Vous l'aviez trouvé très sensible à ça.
Non, mais il laissait faire. T'as mépris finalement.
Il cite un prédicateur d'Alençon, à l'époque de Napoléon, qui lui dit, vous vous rappelez, être pareil à sa majesté, quel honneur pour Dieu. Et une autre fois, on est en août 1968, il écrit votre nom du pied sur du sable. J'ai écrit Anne du bout du pied, je t'ai aimé, ma bien-aimée. J'ai décidé que lorsque je dirigerai l'État et l'Église mise au pas, je donnerai le 15 août à Sainte-Anne. Marie ne m'en voudra pas, on la mettra tout de même à l'honneur. Fin de citation. Et puis, il y a par moments la capacité de faire des portraits.
Ah oui.
N'est-ce pas? Il vous les faisait aussi oralement, j'imagine.
Ah oui.
Croquer les personnages.
Ah oui, ça c'est un très très bon trait de ces lettres, un très beau trait.
Je vous en donne un exemple avec ce portrait de la femme d'un maître de forge, Madame X, certains la reconnaîtront peut-être. Merveilleuse incarnation de ce qui m'irrite et me fait rire, grande dame aux idées libérales qui se penche sur, entre guillemets, la condition de ces bonnes gens, qui pensent que les populations d'Amérique du Sud ont de la chance d'avoir des dictateurs et des prêtres épatants, qui a des idées sur tout avec un petit air avancé ou de fronde, qui veut me voir en particulier à Paris, parce qu'ici tout de même c'est difficile, pour me dire des choses très importantes, qui nous a laissé un chèque de 1000 francs, qu'on ne lui demandait pas, pour le musée, sinon on aurait plutôt espéré 10 000 francs. Bref, elle m'a beaucoup apprécié, je lui plais. Moi je regardais surtout, perdu sur sa vaste poitrine, un minuscule ruban rouge de la Légion d'honneur, tout petit trait de distinction et de discrétion, qui me paraissait d'énormes vanités mondaines et d'héroïsme assez modeste.
Mais ça, c'est... Quel œil et quelle langue, hein.
Parfois, l'esquisse, il n'en abuse pas d'un peu d'autodérision. Vraiment, il n'en abuse pas. On l'avait souvent comparé à Rastignac. Il écrit « J'ai abordé Paris, on est en septembre 1966, avec la fraîcheur de mon frère Rastignac. Paris à nous deux.
Oui. »
Et puis, il y a naturellement les gaietés de la connivence, avec ce rébus qu'on retrouve partout sur l'anchois.
Anchois pommier.
Et le pommier, ça veut dire François Ier.
Ça, c'est mon petit frère qui avait trouvé cette astuce. Et là, c'était devenu le nom de guerre. On l'appelait anchois pomme.
Mon cher anchois. Et autre cas de l'esquisse d'un peu d'autodérision, Ma part de vérité, un de ses livres importants, Dialogue avec Alain Duhamel, dont vous avez trouvé le titre ensemble.
Je cherchais, parce que je me moquais de sa vérité, que je savais être à rayon.
Et alors, il a appelé ça à un moment donné, pour vous, ma part de sournoiserie. Merci beaucoup d'avoir été à ce micro. Merci Anne Pinjot.
De cette rencontre entre Jean-Noël Jeannet et Anne Pinjot, enregistrée en 2016. Demain, en conclusion de la semaine, nous vous proposons la lecture d'extraits de la correspondance entre François Mitterrand et Anne Pinjot, en partenariat avec France 5, à l'occasion de la diffusion du film François Mitterrand et Anne Pinjot, fragment d'une passion amoureuse. À voix nue, réalisation Anne-Laure Chanel, Thomas Jost, prise de son Jérémy Thuil, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.